la moitié des parcelles qu'on a achetées donc, ces deux dernières années, à quelques mois près, donc, elles étaient coupées à blanc et replantées en Douglas dans l'année qui suivait, quoi. Et c'est vraiment une concurrence très forte qu'on a eue avec, à chaque fois, un ou deux planteurs de sapins qui convoitaient aussi cette parcelle-là. Alors ce qu'on a aussi, parfois aussi, ce sont des personnes qui ne veulent justement pas vendre à ces planteurs de Douglas et qui nous contactent, nous, parce que justement, ils souhaitent que ce patrimoine-là soit conservé et le protéger, quoi, d'une certaine façon. C'est le cas de la parcelle sur laquelle on se trouve.
Le chat sauvage et le carouège à la défense des forêts du Morvan. La 23e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Ce n'est pas par hasard que le RAF, c'est-à-dire le réseau pour les alternatives forestières, a choisi de tenir son assemblée générale annuelle le 10 juin 2017 au Carouège, à Vauclay, dans le Morvan, en Bourgogne. Le Carouège est un lieu génial de rencontre situé sur un carrefour. Justement, Carouège veut dire carrefour en morvandel. Ce lieu a été créé par toute une équipe de militants de l'association Adré Morvan qui a mené une lutte victorieuse contre le projet de méga-scierie et d'usine de plaquettes de l'entreprise belge Erxia, dont l'installation allait provoquer la destruction d'une centaine d'hectares de forêt. Cette victoire a créé un grand élan local qui a mené non seulement au lancement du Carouège, qui organise régulièrement des cafés forêts, mais aussi à la création du Chat Sauvage, un groupement forestier atypique. Lors d'une visite de l'une des forêts achetées par le Chat Sauvage, le gérant du groupement, Frédéric, nous a présenté son approche qui est fortement marquée par une éthique qui cherche surtout à promouvoir la biodiversité et les paysages.
Le Chat Sauvage, c'est un groupement forestier, donc société civile. On connaît bien les SCI, société civile immobilière. Bon, là, c'est le même principe, mais c'est pour de l'achat de foncier forestier, hein, plutôt que d'immobilier. On s'est créé il y a 2 ans, presque jour pour jour, hein, en juin 2015. Quand on habite un territoire comme celui-ci et que quotidiennement on voit des forêts comme celle-ci qui sont cassées, hein, qui sont massacrées, qu'on sait qu'effectivement ça prendra plusieurs siècles dans le meilleur des cas pour retrouver une situation identique, que les paysages dans lesquels on a toujours vécu en quelques 24 heures des fois, vous partez le matin, le soir, le paysage n'est plus du tout le même et c'est définitif. Et le pire peut-être, c'est le sentiment d'impuissance qui va avec. C'est-à-dire, en gros, se dire, bah, voilà, c'est comme ça, et je n'ai rien à dire, et je ne peux rien faire. Et quand vous en parlez, on vous dit, bah oui, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le marché, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, de toute façon, les autres sont trop forts, et de toute façon, etc. Voilà. Donc, on a été 4 au début, à se dire, ce sera dérisoire, ce ne sera pas grand-chose, on ne va pas inverser la tendance, mais au moins, on aura l'impression de réagir et de ne pas subir uniquement. Alors, on s'est inspiré d'une initiative qui avait une dizaine d'années d'ancienneté, dans le sud Morvan, qui était le groupement pour la sauvegarde du feuillu en Morvan. Et on s'est dit, voilà, on va prendre des statuts les plus simples possibles, parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter avec ça, pour créer quelque chose, et après, on fera venir du monde. Bon, le temps qu'on travaille sur les statuts, ça nous a pris un petit peu de temps, et on s'est retrouvé à 40, parce qu'on en a forcément parlé, les gens nous ont dit, ça nous intéresse, on vient avec vous, etc. Donc, sans chercher personne, on s'est déjà retrouvé à 40. Donc, on était 40 à créer le groupement. Et on l'a créé vraiment avec des statuts sur lesquels on n'avait pas envie de se prendre la tête, donc des statuts standards de groupements forestiers. On savait qu'ils ne nous correspondaient pas bien, mais tant pis, nous on avait vraiment envie de passer à l'action. On a très vite trouvé des parcelles, alors de proximité. Alors dans les statuts par contre, on avait quand même réfléchi à une question qui était l'objet du groupement. Et nous on avait écrit clairement comme objet du groupement que l'objectif numéro 1, c'était le maintien de la biodiversité et de la qualité des paysages. C'est-à-dire qu'en gros, on ne s'interdisait pas de produire du bois, mais ce n'était pas notre problème, notre priorité. Et on s'appuyait sur une réflexion partagée qui était de dire ce qui fait la valeur d'une forêt comme ça, c'est le bois sans doute, mais le bois, c'est vraiment qu'une toute petite partie de la valeur de la forêt, même s'il n'y a que pour cette partie-là qu'il y a un marché. Mais pour nous, le reste était bien plus important. Donc, on a vraiment voulu, dans nos statuts, que ça apparaisse clairement. Et on a voulu donc travailler tous les aspects, un petit peu tout ce qui nous intéressait autour de la forêt, c'est-à-dire la faire connaître, reconstruire un petit peu les liens qui existaient entre les habitants et la forêt, tout le travail de communication qu'on a voulu faire à partir de là. Donc aujourd'hui, on est plus de 120 sociétaires, on est propriétaire un peu plus de 30 hectares, et puis il y en a 5 ou 6 qui sont en cours d'achat. Pour le moment, on est en phase d'acquisition de foncier, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir suffisamment de parcelles. On commence à travailler là sur notre plan simple de gestion. On n'est absolument pas pressé et on mûrit notre réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire de cette forêt. C'est pour ça que ça nous intéresse énormément effectivement de rencontrer au sein du RAF d'autres partenaires parce que ça alimente un petit peu notre réflexion sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir gérer intelligemment cette forêt-là, sachant qu'on ne cherche pas forcément à en tirer un profit maximum. C'était clair entre nous au départ, mais les premiers sociétaires ont demandé au bout de 6 mois à ce qu'on l'écrive dans les statuts. Ce n'était pas écrit dans les statuts, mais on a écrit clairement qu'on ne distribuerait aucun dividende ni quoi que ce soit aux sociétaires, pour que les choses soient vraiment claires. Ce n'est vraiment pas l'aspect purement économique qui nous intéresse. Effectivement, on cherche des sociétaires, mais on a une dimension éthique, c'est-à-dire que c'est écrit aussi dans les statuts, c'est-à-dire que le groupement forestier du chat sauvage est un groupement éthique. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a dû se poser la question d'accepter ou de refuser l'intégration de certains sociétaires. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des personnes, moi je pense ça peut être des élus politiques qui ont parfois été nos adversaires sur des combats très proches de la forêt, qui peuvent être intéressés en termes d'image à faire partie du groupement forestier. Là je pense qu'on n'aura pas de mal à trancher. La taille aussi à atteindre. C'est-à-dire que j'ai entendu aussi la question aujourd'hui du RAF, est-ce qu'on est forcément amené à grandir et voilà. Nous, c'est aussi une question qu'on s'est posée. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'ambition de couvrir tout le territoire, même le petit territoire sur lequel on habite. C'est-à-dire qu'on veut vraiment garder une dimension qui soit raisonnable, avec l'idée, à un moment, peut-être d'essaimer. C'est-à-dire que si cette idée-là intéresse, que d'autres groupements identiques se créent à 30 ou 40 ou 50 km, avec une approche assez voisine, mais pas forcément identique. C'est-à-dire qu'après, là aussi, la diversité est intéressante. Il y aura sans doute des différences, des nuances d'un groupement à l'autre, mais je pense que si on arrivait à un maillage du territoire par ce type de groupement, il y aurait des choses intéressantes qui seraient faites. Alors, on commence à être sollicité effectivement par les institutions pour participer effectivement à certaines réunions, à certaines... Moi, je n'ai pas encore d'idée là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut la peine effectivement d'y consacrer du temps et de l'énergie? Moi, je n'ai pas encore de réponse. Pour le moment, je pense que non. Par contre, on a vraiment décidé de jouer la carte de la proximité. Et là, je continue à penser que même si ça prend du temps, là, on peut faire quelque chose. Je prends deux exemples, tout simple. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, avec Vincent, on était avec un petit groupe comme celui-ci. Au sein du groupe, il y avait une personne qui était un défenseur, je dirais, de la sylviculture, en gros, qu'on combat. Et à un moment, on s'est posé devant un très gros être, qui était à peu près centenaire, qui n'était pas forcément très très joli pour un sylviculteur, mais qui couvrait à peu près 200 mètres au sol par son houppier, et qui était vraiment un arbre majestueux. Alors nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas, avec argument pour, etc., argument contre. Et la personne en question, tout de suite, ça a été de dire, moi je l'enlève, parce qu'effectivement, avec l'espace dégagé, etc., etc. On a chiffré la valeur de l'arbre, on est arrivé à 120 ou 130 euros. 120, 130 euros, c'est pas rien, mais est-ce que cet arbre-là, il n'a pas plus de valeur gardé sur pied que coupé et nous rapportant 120 ou 130 euros? Je pense que le fait de poser ces questions-là amène d'une certaine façon, petit à petit, c'est un travail de fond, c'est un travail de sape, mais les gens à réfléchir. Le deuxième exemple, c'est une parcelle, on s'est battu pendant un an pour l'obtenir, c'est une parcelle qui fait un peu plus d'un hectare, avec pareil des très beaux arbres qui étaient plus que centenaires. Le propriétaire était d'accord pour nous la vendre, mais après, l'avoir coupée à blanc. On s'est battu pendant un an. Pendant 3 mois, c'était « oui, d'accord, je vous la vends avant ». Puis pendant les 3 mois suivants, « non, je la fais couper », etc. On n'a pas pu empêcher la coupe à blanc. Il en a tiré moins de 3000 euros. Moi, maintenant, le message que je fais passer auprès de cette personne-là et de ses voisins et puis de tout le monde, c'est de dire « ok, 3000 euros, c'est pas rien ». Mais est-ce qu'il ne valait pas mieux transmettre à ses petits-enfants une parcelle avec des arbres centenaires, des écureuils et puis les chouettes qui vont avec et les chauves-souris, plutôt qu'effectivement les 3000 euros à la banque, mais ce désert qui, sans notre intervention, aurait été replanté en sapin, puisqu'on était en forte concurrence sur cette parcelle avec un planteur de sapin. Donc je pense qu'en posant ces questions-là, petit à petit, les gens forcément vont quand même réfléchir. C'est qu'il y a un modèle économique qu'on combat, et par l'action, hein, par l'exemple, par les questions qu'on pose, j'espère qu'on peut un peu faire évoluer les situations. Sur les 30 hectares sur lesquels on est propriétaire, il y en a plus de la moitié pour lesquels ça a été une bagarre que personne ne peut imaginer avec les concurrents planteurs de sapins. Et ça a été jusqu'à des pressions physiques, pas sur nous, mais par exemple sur notaire ou autre personne comme ça pour faire invalider une vente. Que de poissons sur un parking, etc., engueulade magistrale, etc., etc., pour le notaire, parce que effectivement, la personne avec laquelle on était en concurrence, qui voulait cette parcelle pour planter des sapins, n'acceptait pas cette idée-là. Enfin, pour vous dire dans quel contexte on mène ce combat, et moi je pense qu'il mérite d'être mené, et c'est évident que nos 30 hectares sur le massif du Morvan, c'est rien du tout, mais quand même... Ça interpellera quand même forcément un petit peu certaines personnes et ça amènera à réfléchir sur le modèle économique que l'on défend. Quoi.
Est-ce que vous avez réfléchi sur la filière ?
Alors, nous, on en est, comme je le disais tout à l'heure, qu'en phase d'acquisition de foncier. Hein, donc, la filière, le travail avec la filière nous intéresse énormément et c'est pour ça qu'on est vraiment très, très intéressés par tous les échanges qu'on peut avoir dans le cadre du RAF ou alors plus localement, hein, le travail que fait Adrès sur le développement de filières courtes. Nous, on voudrait être un maillon de la filière. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées en aval pour travailler avec nous. Et donc, nous, c'est ce qu'on voudrait mettre en place dans les prochaines années. Que ce soit des menuisiers, il y a une luthière qui est intéressée aussi par ce qu'on fait. Il y a une jeune femme qui fait du design à Genève qui voudrait vraiment travailler avec du bois de nos parcelles, etc. Donc, tout ça, on est en train de le construire. On n'est pas pressé, mais ça fait partie de nos objectifs. Par contre, on n'a pas... Pour le moment, la volonté ou la capacité, c'est certain, de traiter toute la filière, bon, comme on a pu le voir à Longuemaille, par exemple, ou ailleurs. Hein. Nous, on serait vraiment que, je dirais, producteur de bois, entre guillemets, quoi. Un propriétaire du foncier, quoi. Régis, au sein de l'ADRES, donc, essaye de mettre en place ce réseau des filières courtes. Donc, Artisan Bois Morvan, là, sont partie prenante. Mais voilà, on se rencontre souvent. Et puis, nous, on n'a pas encore commencé la production de bois hein, sur nos parcelles, comme je disais. Mais on se prépare à l'étape suivante. Et nous, ce qui nous intéresse uniquement, c'est vraiment de travailler avec des locaux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur nos 120 sociétaires, il y en a à peu près 60% qui sont locaux et 40% qui sont plus éloignés. Alors ça peut aller, on a des personnes aux Pays-Bas, au Canada, en Suisse, etc. Bon, des gens qui ont quand même un lien affectif avec le Morvan, mais voilà, on essaye vraiment de travailler la proximité. Et même chose sur les parcelles qu'on achète, on essaye de pas trop se disperser, c'est-à-dire qu'en gros, on va rester sur un cercle d'un rayon de 20 km autour de Brassy pour justement être connu, si vous voulez, et garder ce lien avec le local. Au lendemain de la guerre, donc dans nos régions, il y a eu une déprise agricole assez forte, c'est-à-dire que toutes les parcelles de prés qui étaient trop éloignées des villages, etc., ont été abandonnées. Alors certaines, dès cette époque-là, ont été plantées en sapin, hein, c'est les premières plantations, et d'autres ont été laissées à l'abandon et ont repoussé en feuillus de qualité très moyenne, quoi. Et c'est ces forêts-là, qui aujourd'hui donc, ont 70-80 ans, qui sont coupées à blanc pour replanter du sapin. Mais on a, ou du Douglas. On a peu de plantations qui sont sur des prairies quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire que les prairies regagneraient plutôt sur la forêt, par ici. D'abord, c'est une caractéristique de la forêt du Morvan, hein, c'est d'être très morcelée. Donc pendant très longtemps, on a pensé que ça pouvait être une force pour elle, parce qu'effectivement, en n'intéressant pas les gros planteurs, etc., puisque trop compliqué au niveau du foncier, etc. Bon. Bon, là, on s'est aperçu qu'on s'était trompé parce qu'en fin de compte, ceux qui voulaient des grandes surfaces arrivaient à les trouver. Et là, ces petites surfaces-là, elles étaient intéressantes par des gens comme artisans, agriculteurs, etc., qui arrivaient quand même à les acheter et à les replanter en sapin. Donc oui, on est une région vieillissante. Hein. on n'a pas l'habitude de voir des gros rassemblements d'enfants, etc. On a fait une fête de la forêt sur une de nos parcelles il y a une quinzaine de jours, avec des activités de jeux ludiques en forêt, etc. Moi, je n'avais jamais vu, depuis 30 ans, un tel rassemblement de gamins et une telle ambiance de cours de récréation ou de piscine, quoi. C'est-à-dire que ça courait dans tous les sens, ça rigolait, ça jouait, ça criait. On n'a jamais connu ça ailleurs, quoi. Ça prouve bien que la forêt, elle a un potentiel, elle a quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Et moi, c'était la première fois depuis 30 ans que je voyais un tel rassemblement de jeunes enfants.
Ils ne vont pas forcément l'oublier non plus.
Moi, je pense, oui. Moi, je pense. Hein. Et ça, moi, je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Bon, on sent que la culture dominante est quand même prégnante. C'est-à-dire que les gens qui nous rejoignent, c'est par réaction contre les politiques d'enrésinement, etc., etc. Mais par contre, il nous reste tout un travail d'éducation à faire, par exemple par rapport à l'importance du bois mort, sur pied ou couché, etc. Parce que les stéréotypes sont déjà ancrés, c'est-à-dire qu'en gros, une forêt propre, bien entretenue, une forêt pour qu'elle vive, il faut couper du bois et en sortir beaucoup, parce que voilà, toutes ces choses-là, qui sont quand même le discours dominant quoi, en matière de sylviculture, il faut un certain temps pour que les gens acceptent de le reconsidérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques mois, effectivement, ils ont compris effectivement les enjeux, mais on a de nouveaux sociétaires qui arrivent et qui reposent les mêmes questions. Et au bout d'un certain temps, c'est ceux qui, effectivement, à un moment, ont tenu ce discours-là, qui disent « non, c'est pas si simple que ça, et le bois mort, il a son rôle, et tout ». Voilà, donc il y a ce travail éducatif qui est intéressant aussi. Donc nous, on est parti de petites parcelles, parce qu'on avait des petits moyens, et on s'agrandit en achetant les parcelles mitoyennes, quoi. Et après, ça nous permet d'obtenir des blocs de 5 ou 6 hectares qu'on essaye de faire se rejoindre entre eux. Mais là aussi, on joue la proximité, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment par les relations avec les voisins, avec les gens, qu'on arrive à avoir ces parcelles-là. Quoi.
C'est comment ? C'est quand même assez connu, visiblement.
Oui. Là, on commence à être connu et reconnu un petit peu aussi par, que ce soit le parc du Morvan, la SAFER, etc., le conseil régional... C'est même eux qui nous ont demandé à nous rencontrer à certains moments pour qu'on fasse un peu connaissance. Quoi. Et...
Mais au niveau du parc, par exemple, est-ce que, ou des gens comme ça, quoi, est-ce qu'il y a un peu une mise en question de cet enrisement, les petits sapins partout qui remplacent des forêts magnifiques comme ça, quoi.
Moi, je crois vraiment que notre territoire, malheureusement le Morvan, est vraiment considéré comme un territoire à Douglas. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait l'impasse sur une sylviculture diversifiée et raisonnée. Je pense que la réflexion a avancé un petit peu au niveau national là-dessus, mais par contre, que ce soit le Morvan ou le Limousin, on est vraiment catalogué comme une terre à Douglas où il n'y a rien d'autre à faire et on a fait un petit peu l'impasse sur... Alors le parc du Morvan, lui, il essaye de travailler, il travaille directement avec la filière. Et je dirais, il essaye de limiter les dégâts, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il peut pour sensibiliser les professionnels, etc., pour avoir des interventions les moins violentes possibles, mais sans aucun pouvoir législatif, ni de police, ni quoi que ce soit. Quoi. Donc c'est vraiment très très limité, et ils ont seulement un pouvoir d'essayer de persuader, de convaincre, de prendre un minimum de précautions. Quoi. Mais si leurs interlocuteurs n'ont pas envie, ils ne peuvent rien faire. Hein, donc, alors ce qui est absolument aberrant, c'est le modèle économique, parce que vous voyez des grumes de chêne comme celle-ci, qui sont quand même a priori de belles grumes, il faut savoir que ça part donc en Italie pour du bois bûche, pour des cheminées dans les centres-villes. Quoi. Parce qu'on pourrait se dire, au moins une grume comme celle-ci, ça fait mal au cœur de la voir partir, mais si c'est pour du bois d'œuvre ou n'importe quoi. Et on nous dit, il n'y a pas de marché pour ce type de bois, ce qui est sans doute vrai. Mais de là à payer des gens des salaires de misère, parce que les travailleurs forestiers travaillent dans des conditions épouvantables par ici, et aussi bien au niveau social, salaire, etc. Donc des camions qui viennent sur les routes se charger donc de ce bois-là et partent systématiquement donc en Italie pour faire du bois de chauffage dans les poêles et les cheminées en centre-ville quoi. Donc on a un modèle qui est complètement aberrant quoi. Alors quand on en parle avec les gens, ils disent oui c'est vrai c'est aberrant mais il n'y a pas d'autre solution. Moi ce qui m'intéresse dans les discussions qu'on a entendues aujourd'hui, c'est que des gens aient envie de chercher ce que l'on peut faire avec ce bois-là. Et moi, je ne peux pas croire qu'on ne peut rien faire avec des grumes comme celle-ci, que ce soit du chêne, mais même du charme ou ailleurs, ou du hêtre, il y a forcément des choses intéressantes à faire. Ou alors, en local, quoi. C'est-à-dire que si c'est du bois énergie, il faut que ce soit en local. On produit des petites quantités, mais on n'a pas des gros besoins non plus. Donc, en local, on doit pouvoir faire des choses moins stupides que d'emmener ce bois-là pour faire du bois énergie, mais en Italie, quoi, du bois bûche en Italie, quoi. L'autoroute entre Paris et Rome, avec ses camions, et nous, c'est... là, le petit hameau que j'habite juste à côté, pendant un moment, c'était deux camions tous les deux jours qui étaient là sur le bord de la route à se charger de bois pour l'Italie, quoi.
Et j'avais une autre question, est-ce que ce système d'exploitation forestière, est-ce que ça donne réellement du travail sur place ici, ou la main-d'œuvre, elle vient d'ailleurs?
La main-d'œuvre vient d'ailleurs et travaille dans des conditions épouvantables, quoi, que personne ne peut imaginer. La parcelle dont je parlais tout à l'heure, c'était une personne... je ne sais pas si c'est roumain ou bulgare, qui travaillait seul. De 7h le matin à 22h, on entendait la tronçonneuse, et avec un salaire que je ne connais pas, mais que j'imagine dérisoire, quoi, hein, c'est, en termes de sécurité, en termes de conditions sociales du travail, c'est pas acceptable non plus, quoi. Donc nous, dès le début, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dès le début, on a intégré dans notre réflexion le fait que les gens qui travailleraient sur les forêts du groupement le feront dans des conditions sociales acceptables et négociées avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait un certain nombre d'exigences en termes de qualité du travail, hein, parce qu'effectivement, couper un arbre sans l'abîmer et sans abîmer les autres, ça demande une technique particulière. Donc voilà. Par contre, on est conscient aussi qu'on doit le payer plus cher. On doit le payer plus cher. Donc ça, c'est quelque chose, et ça, c'est étonnant, parce que dès la première réunion, au moment de la création du groupement, alors qu'on ne pensait pas encore du tout à la production de bois, mais c'est quelque chose qui a été annoncé clairement par les premiers sociétaires, c'est de dire, nous, le bois qu'on produira, il sera produit dans des conditions socialement acceptables, quoi. Donc ça nous reste à définir et à préciser, parce qu'on n'en est pas encore là, mais c'est un élément important de notre réflexion. En gros, est-ce que le rendement financier est le seul critère qu'on doit prendre en compte? C'est comme la création d'emplois. C'est-à-dire qu'en gros, on fait passer n'importe quel projet aberrant avec comme seul argument, ça crée des emplois. Bon, ben moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quel emploi en plus, quoi? Effectivement, je suis pour qu'on crée les emplois. Mais la création d'emplois ne doit pas suffire pour justifier un projet. Sa rentabilité financière ne doit pas suffire pour justifier une coupe à blanc ou quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a dit ça, on dit qu'il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire qu'en gros, si vous ne coupez pas à blanc, il y a d'autres solutions, il y a d'autres façons de faire, de produire et de faire travailler les gens. Et les petites scieries locales, pourquoi elles ont disparu? Est-ce que c'était une fatalité? Est-ce qu'on est forcément à l'ère où une scierie doit être forcément énorme et consommer des subventions européennes ou nationales énormes? Voilà, on peut avoir cette réflexion-là aussi, quoi.
Petite question, on entend la machine dimanche, ça c'est normal?
Oui, c'est normal. C'est normal puisqu'on est dans un modèle économique où le débardeur est compressé entre l'exploitant qui veut que le bois sorte, entre le fait qu'on travaille sur des volumes et sur la compression des coûts plutôt que sur la qualité. Et aussi, cette personne a très certainement affaire à son banquier parce que c'est des machines qui coûtent très cher et qu'il faut rembourser. Donc ces gars-là n'ont pas le choix. Hein. C'est samedi, dimanche, la nuit, le jour, et ils travaillent... voilà, pour courir après leur crédit. Pour moi, ils sont victimes du système, hein, au même titre que nous. Quand on produit du bois de qualité, on peut se permettre de financer une sylviculture et une exploitation de qualité. Et c'est le bois de qualité qui paye le propriétaire, ne l'oublions pas. Hein, donc là, dans un modèle intensif comme là, donc là, ils sont juste en train de raser la forêt de feuillus, ils vont même pas la valoriser à son juste mérite, ils vont sortir quelques grumes qui vont... arroser d'anticides, de pesticides et de je ne sais pas quoi avant de les expédier en Chine. Et tout le reste, c'est du bois du bib, hein, du bois d'industrie, du bois énergie, voire éventuellement du bois de chauffage qui part en Italie, mais que nous, on voit juste passer. Et ça, c'est, je le dis juste quand même pour information, c'est labellisé PEFC. Hein. Donc vous avez vu l'état du chemin, vous allez voir la coupe rase. Ouais. Donc c'est juste pour information, c'est de la gestion durable. Hein.
Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais cette histoire, par exemple, de fonds de dotation dont on parle maintenant au réseau, mais je ne parle pas forcément quelque chose de national, mais un fonds de dotation local, parce que je ne sais pas si ça peut être une idée ici, mais on a l'impression qu'il y a pas mal de gens qui pourraient vouloir léguer des forêts, des personnes âgées qui sont très attachées à leur forêt. Finalement, ils n'ont peut-être pas d'enfants ou pas des enfants intéressés. Et donc, c'est un moyen d'être sûr que ça va être sauvegardé.
Voilà, ouais. On a ce genre de situation. Hein. Une des premières parcelles qu'on a achetées, qui est une des plus jolies, elle se trouve donc sur la commune de Marigny-l'Église, là, sur le bord d'une rivière. Et donc, les bûcherons étaient en train de couper à blanc une des deux rives. Et ils sont allés voir les propriétaires sur la rive d'en face, en leur disant, voilà, tant qu'on est là, si vous voulez, on fait le chèque. Et voilà. Donc, les propriétaires, ces deux vieilles dames qui ont dit, non, non, nous, on ne veut pas d'un tel massacre chez nous. Donc, ils ont laissé repartir les bûcherons. Puis après, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est là qu'ils ont pris contact avec nous pour qu'on prenne le relais, quoi, en termes de gestion. Et ils nous l'ont laissé, bon, à un prix qui était vraiment intéressant, mais justement pour sauver ce patrimoine. La parcelle qu'on va voir là, elle est intéressante à plus d'un titre. Premier titre, c'est que c'est à la création du groupement, elle a été apportée en nature par un des sociétaires créateurs. Alors vous allez voir, elle est très moche, on va voir pourquoi, mais elle est intéressante quand même. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a une loi qui dit que quand une parcelle de moins de 4 hectares, enfin quand un lot de moins de 4 hectares est à vendre, les propriétaires riverains des parcelles sont forcément contactés et sont prioritaires pour l'achat, au prix indiqué. Alors je fais une petite parenthèse parce qu'il y a une anecdote qui était très très intéressante. La première parcelle qu'on avait visée avec le groupement, c'est une très belle parcelle de très beau bois qui est à 1 kilomètre d'ici à peu près. Et c'est une vieille dame que je connais très très bien qui voulait nous la vendre. Et elle nous faisait un prix d'amis, etc. Elle disait, je ne la vends qu'à toi et je te fais un prix sympa, etc. Nous, on ne connaissait pas trop la loi. Et on y allait billes en tête chez le notaire. Et un jour, je reçois du notaire un mot en trois lignes en disant « Le riverain a fait valoir son droit de machin, l'affaire est close. » Donc, embêté, la propriétaire dit « ce que je vais faire, c'est que je vais la retirer de la vente. » La notaire lui dit « Normalement, on n'a pas le droit. » Hein, on n'a pas le droit, mais elle dit « Bon, j'ai jamais entendu qu'il y avait de problème autour de ça. » Donc la vieille dame me dit « Bon, ben, je ne la vends plus. » 15 jours après, la notaire reçoit un courrier du voisin en question disant « Attendez, article machin, etc. Non seulement, vous n'avez pas le droit de la retirer de la vente et c'est forcément au prix en question. » Donc moi, je me dis « Voilà, c'est une parcelle qui est en feuillu, qui est belle. » Et je me dis « Pour que ce soit quelqu'un comme ça, c'est un forestier professionnel. Donc, il va bénéficier de la parcelle que la dame n'aurait jamais vendue et en plus à un prix d'ami. Donc, tout bénéfice pour lui. » Donc pendant 6 mois, j'étais quand même plutôt mal en disant « Voilà, on va à l'encontre de ce que... » Et renseignement pris, la voisine, c'est une dame qui veut absolument pas qu'on touche à la forêt, donc elle a tout fait, elle a mis le paquet pour récupérer la parcelle. Quand le propriétaire amène une forêt, même si ça fait moins de 4 hectares, on peut pas, les riverains ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire qu'il peut l'apporter au groupement. À partir du moment où c'est un apport en nature, il ne l'achète pas, quoi. C'est un apport en nature, quoi. Et nous, ça nous a permis, à partir de ce petit noyau-là, eh ben, d'être prioritaire sur toutes les parcelles qui étaient autour. Et je pourrais vous montrer, ben, j'ai les cartes ici. Du coup, il y a au moins une dizaine de parcelles. Et on n'a pas fini, parce qu'il y en a encore 2 ou 3 autres qu'on devrait pouvoir acquérir rapidement. Et d'agrandir. C'est-à-dire que d'un lot qui est moche d'un hectare, on arrive à faire un groupement d'à peu près 5 ou 6 hectares grâce à cette règle de la priorité des riverains.
Est-ce que ça veut dire qu'au lieu de vendre une parcelle à prix d'amis, faire un don en nature permettrait en fait de passer outre cette règle de riverain?
Alors, soit don en nature ou même apport, c'est-à-dire que ça peut être un don en nature, mais ça peut être un apport en nature, c'est-à-dire que la personne peut dire « moi j'apporte ma forêt, on l'évalue à tant et ça fait tant de parts », c'est-à-dire qu'après je suis propriétaire de tant de parts du groupement, parts que je décide de garder ou de revendre. J'ai vu ce matin, par exemple, dans Brassy, en allant voter, un monsieur qui m'a dit « Voilà, j'ai une parcelle d'un hectare, elle est convoitée par des planteurs de Douglas, je voudrais que vous la vendre à vous. » Mais, alors moi, je lui ai dit « Mais le problème, c'est que les planteurs de Douglas qui sont tout autour, ils vont être prioritaires. » Et donc, on va discuter, parce qu'il n'avait pas envisagé ça, et voir s'il est d'accord, mais il va apporter la parcelle en nature au groupement. Hein. En échange, on va lui donner, il va être propriétaire de 5 ou 10 parts, on va voir combien en fonction de la valeur, et après il fera le choix. Soit il décide de garder ses parts, ou alors si vraiment il a envie de récupérer les sous, dans 6 mois ou dans 3 mois, il revendra les parts comme c'est prévu par nos statuts. Voilà.
Mais le lien avec quelque chose comme Adrivanvan, le lutte contre cette... ce projet assez aberrant d'Axia, etc. Est-ce que c'était important dans le développement de chasse sauvage et de trouver des nouveaux sociétaires?
Oui, je pense que même s'il n'y a pas de lien direct, le groupement est né quand même à la suite de ce qui s'est passé sur Axia. D'abord sur une thématique assez proche, hein, parce qu'une des craintes par rapport à ce projet, c'était une forte consommation de bois au niveau local. Et puis, il y avait une dynamique qui avait été enclenchée quand même, qui s'est terminée par une victoire. Et on s'est tous dit, bon, c'est quand même dommage de... voilà, qu'il n'y ait pas une suite, qu'il n'y ait pas un rebond à partir de là. Et à partir de là, donc, il y a eu plusieurs initiatives. Il y a eu le Carouège, le Café Forêt. Il y a eu la boutique à Vauclay aussi. Et puis, il y a eu un peu le Chat Sauvage.
Le terme consacré, c'est sociétaire pour le chat sauvage, hein, puisque c'est un groupement forestier dans lequel on a chacun des parts.
Oui.
Donc voilà, moi j'ai pris des parts en mars 2016, donc un peu un an après la création du groupement.
Et comment vous avez entendu parler ?
À travers Adrien Morvan et le Carouège, que je fréquente assidûment. Et d'ailleurs, avant d'entendre parler du chat sauvage, j'avais trouvé au Carouège la littérature du RAF, qui m'a beaucoup intéressée. J'ai vraiment lu de A à Z tout ce que j'ai pu trouver comme bulletin et autres. En même temps, on a commencé à faire des cafés forêts au Carouège. Les arbres, la forêt, professionnellement, je n'y connais rien, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je dis souvent que les arbres m'ont sauvé la vie, hein, parce que je ne peux pas vivre sans eux et dans des périodes très sombres. Leur simple compagnie m'a beaucoup, beaucoup réconfortée, donc c'était une démarche assez logique. Et donc après, j'ai entendu parler du chat sauvage et lors d'une réunion de présentation, j'ai décidé de prendre quelque part dans le groupement et puis de commencer à me former davantage, enfin à en apprendre plus justement sur la forêt, sur les façons de la gérer et tout ça.
Ouais. Vous sortez assez en fait, de temps en temps dans les différentes forêts ?
Ah, j'y passe beaucoup de temps en forêt, oui. Beaucoup de temps, mais bon, j'y vais souvent seule, donc pour moi c'est très intéressant de promenade comme on fait aujourd'hui, qu'on nous montre certaines choses, parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre à voir. Mais oui, je suis très très souvent en forêt, même autrefois j'habitais en région parisienne, hein, en banlieue, mais dès que je pouvais, je m'échappais et c'était toujours pour aller dans une forêt.
Mais par exemple, autour de vous, enfin voisins ou des gens que vous connaissez, est-ce que vous avez l'impression que cette sensibilisation pour les forêts, notamment feuillues, qui sont maintenant de plus en plus enrésinées, etc., est-ce que c'est quelque chose que... Vous voyez, les gens, ils voient et ils commencent à être inquiets par rapport à tout ça.
Disons que c'est très variable. Si je considère mes voisins directs ou des gens que je côtoie comme ça, sans les avoir choisis, si on évoque le thème, bon, ça n'a pas l'air très, très prégnant, quoi. Mais là, en tout cas dans notre région, là, hier j'évoquais des réunions qu'on a eues avec les habitants d'une commune qui est Carré des Tombes, où il y a une grande forêt de manial pour laquelle ils s'inquiètent. Des gens qui, il y a quelque temps, bon, parce qu'ils sont promeneurs, qu'ils aiment la forêt, n'avaient rien remarqué de spécial, commencent vraiment à s'inquiéter. Et à se dire qu'il faut faire quelque chose et qu'ils peuvent faire quelque chose. Et qu'ils commencent à s'organiser. Mais on peut dire quand même que c'est une minorité de gens. Hein.
Parce que quand on tombe sur un chemin comme ici, où il y a vraiment des dégâts considérables, apparemment c'est en plus un GR, si j'ai bien compris, mais là, les endroits où les gens passent, c'est complètement enfoncé par les machines, et puis les coupes rases à droite à gauche.
Oui, mais moi, je trouve malheureusement que dans la plupart des habitants de nos villages sont très... j'allais dire conformistes, c'est pas le mot... acceptent des choses inacceptables parce que beaucoup de gens partent du principe qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et que ce n'est pas dans toutes les communes non plus que, par exemple, les maires vont réagir. Parce que c'est très important, hein, que les élus locaux soient sensibilisés. D'ailleurs, nous, on a décidé d'agir en ce sens. Dans la région, quoi, de contacter systématiquement les élus locaux et de les sensibiliser davantage, parce qu'on suppose qu'un certain nombre ne s'intéresse pas, tout simplement par manque d'informations. qu'on n'a pas attiré leur attention sur ce problème, quoi.
Nous, ça veut dire le chat sauvage ou Carouège, enfin Café Forêt.
Oui, bon, c'est un peu tout le monde. Oui, là, je parle plutôt d'Adrey Morvan. Mais non, tout ça converge de toute façon. Donc, par exemple, avec, je crois qu'on en a parlé hier, avec Adrey Morvan et les gens de Carré-les-Tombes, le collectif de défense de cette forêt au duc domaniale, on a prévu début juillet, le 2 juillet, de faire une manifestation dans le village de Carré-les-Tombes, qui est un carrefour, un peu une des portes du Morvan, donc qui passe beaucoup de monde, et il y a un marché le dimanche, et donc on prévoit une manifestation publique avec un copain qui va nous trouver un corbillard symbolique, voilà, pour commencer vraiment à attirer l'attention de façon un peu spectaculaire, quoi.
Oui, c'est marrant, une fois on a fait une manif à Paris devant le Sénat. Et on a amené la forêt française dans un cercueil.
Oui, voilà, on en voilà, a parlé de ça. Voilà. Alors là, on aura carrément le corbillard qui portera le cercueil avec des feuilles et des branches qui sortiront. Enfin, on est en train de préparer ça. Voilà.
D'accord. Mais là, on est juste à côté d'une coupe rase assez... Bon, c'est des parcelles, ici, c'est très morcelé, donc ce n'est pas une parcelle de 20 hectares, mais c'est, je ne sais pas moi, un hectare ou quelque chose. Mais ce qui est terrible ici, je trouve, c'est le... Mais c'est toutes ces questions temporelles, parce que la forêt, ça a pris peut-être presque un siècle à pousser, en partie, hein, en tout cas ces arbres. Et vraiment, dans quelques jours, deux, trois jours, on peut transformer cette forêt mais mixte, tranquille, avec cette beauté, quoi, avec beaucoup d'oiseaux d'ailleurs, etc., en désert. Et voilà.
Oui, c'est la désolation totale. Alors moi, ce que je ne savais pas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est qu'on pouvait justement faire dans des parcelles de forêt ce qu'on voulait. Moi, il me semblait évident que tout ça était très réglementé, qu'il y avait un réel souci des autorités, quelles qu'elles soient, de protéger les arbres, etc. Donc, je découvre beaucoup de choses. Moi, je dis, attendez, n'importe où, vous êtes obligé de demander une permission pour peindre vos volets, par exemple, mais vous pouvez couper à blanc une parcelle de forêt librement. Donc, et ça, j'étais vraiment sidérée de l'apprendre, quoi.
En fait, il y a des réglementations, mais on dirait que ça ne protège pas.
Et sur des petites parcelles, apparemment, au-dessous de, je ne me souviens plus...
Moins de 4 hectares, je crois.
4 hectares, voilà. On ne demande rien à personne. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que, enfin, moi, je considère comme beaucoup, enfin, comme tout, je pense tous les gens qui sont ici, que la forêt, c'est un bien commun. Alors, soit on vit dans un régime de propriété privée, mais elle n'est pas sacralisée au point de laisser les gens saccager.
Mais c'est un bien commun aussi, parce que c'est une contribution absolument majeure pour l'eau, par exemple, pour la propriété de l'eau, pour le climat, enfin, tout ça. Et donc, c'est assez incroyable qu'un seul propriétaire peut décider comme ça de bazarder tout, quoi.
Mais alors, j'ai eu le malheur de faire cette réflexion-là à un petit propriétaire forestier que je connais par ailleurs dans un autre contexte. Simplement prononcer la phrase « Mais la forêt est un bien commun !» Mais il s'est mis « Comment ? Mais c'est chez moi ! Je fais ce que je veux !» Et beaucoup de gens défendent cette idée, hein. Puisque c'est privé, on n'y peut rien. Même les gens dont je parlais tout à l'heure, là, qui défendent leur forêt domaniale, je ne suis pas sûre que les mêmes, une partie, soit prête à se mobiliser si on touche à la forêt privée.
Qu'est-ce qui se passe exactement dans cet autre endroit-là ? Vous avez expliqué le village, la forêt domaniale.
Ce qu'a expliqué Frédéric, hein, et Isabelle, c'est-à-dire qu'on arrive, il y a des plantations qui arrivent à maturité, et donc on fait les coupes à blanc se multiplient, et qu'on s'inquiète de savoir ce qu'on va mettre à la place. Et voilà, qu'on craint que la quantité de feuillus ne continue à diminuer et qu'on continue, même dans le domaine public, domanial géré par l'ONF, parce qu'ils ont quand même aussi beaucoup contribué justement à ce qu'on appelle l'enrésinement. Hein. Donc on aimerait éviter que ça continue.
D'accord, je crois qu'il faut qu'on rattrape les autres. Lors de l'AG du réseau pour les alternatives forestières, nous avons rencontré Anne et Pierre, qui habitent à Cervon, à 5 km du Carouège. Pierre est paysan à la retraite fort active, qui vit toujours dans la même ferme où il a grandi. Anne est l'un des piliers d'Adrey Morvan.
ayant participé à la lutte contre le méga-projet d'Erxia, elle fait également partie de l'équipe du Carouège. Nous leur avons d'abord demandé de nous parler des forêts dans cette région quand ils étaient jeunes.
C'était des forêts, oui, des forêts, on va dire presque des forêts vierges. C'était des forêts qui étaient abandonnées, enfin, qu'on n'est pas exploité. Hein. Des vieilles forêts de chênes qu'on a tout le temps vues, puis de temps en temps, il y avait une partie qui était exploitée, mais c'était pas comme maintenant, c'était pas mécanisable comme ça l'est maintenant. Hein. Et puis 64, c'est là-bas qu'on a acheté le tracteur et la tronçonneuse, donc on a commencé à couper du bois un peu plus facilement. On chauffait au bois, bien sûr. Et puis, nettoyage des prés, agrandissement un peu, tailler quelques haies, enlever les haies qui servaient à rien. Enfin bon, c'était plus facile. Et puis, on a connu le début de la déforestation dans le village, puisqu'il y a eu une grande parcelle de bois qui a été achetée par un groupe d'assurance et qui ont commencé par défolier l'hélicoptère, que nous, on ne connaissait pas déjà ce que ça voulait dire. Après, ils ont arraché tout au bulldozer. Ça...
Juste, je crois qu'on est tous assez étonnés par cette histoire, parce que même mes amis dans le réseau, ils n'ont rarement jamais même entendu parler de ces méthodes-là, donc qui fait penser à Jean Vietnam, à Jean Orange, ouais. ou même en Amérique latine pour arrêter les cultures de drogue ou je ne sais pas quoi. Hein, mais donc... Vous n'étiez pas informé ou vous aviez une idée tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand même des produits dangereux.
On ne nous a rien dit du tout. Nous, on a vu l'hélicoptère qui tournait, on est allé voir, on a vu qu'il arrosait, il y avait des cuves de produits qu'il mettait dedans. Puis ça a duré peut-être une heure, la vitesse où ça va. On n'a pas eu le temps de voir grand-chose. Puis en plus, c'était à 1 km du village, donc au milieu des bois, bon, on ne savait pas trop. Puis on a vu après les chênes qui étaient limitrophes, qui perdaient leurs feuilles, qui ont été... Il y en a qui ont crevé d'ailleurs, parce qu'une dose de défoliant, c'est pas très bon. Et ce qui est à 1 km du village, il suffit que le vent soit un peu contraire, puis enfin, dans le bon sens, puis on en a forcément respiré. Il y en a peut-être eu dans les jardins, enfin, pas facile à savoir. Hein.
Mais c'était quoi l'intérêt en fait?
C'est même pas l'intérêt, parce que les arbres étaient, avant de les abattre, ils ont défolié. Donc est-ce qu'ils allaient crever peut-être plus vite, comme ils les arrachaient aux bulles Moi, j'ai plus trop de...
Et puis après, tu t'expliquais qu'ils envoyaient des... Je veux dire, ils coupaient le tronc, c'est-à-dire qu'il n'était pas fait pour servir par la suite.
Les plus gros chênes ont été coupés et vendus. Mais tous les chênes moyens ont été éclatés au bulldozer, et la lame était pointue, ils enfonçaient dedans, hop, ils les éclataient, et après ils les arrachaient pour qu'ils pourrissent plus vite. Alors le fait qu'ils soient déjà morts avant, est-ce qu'ils pourrissaient plus vite? Je ne sais pas. Hein.
Pas assez. Ils n'ont pas proposé de bois pour les gens du village, pour qu'on puisse se servir avant, rien quoi. Donc c'est une fois qu'ils étaient en tas qu'ils nous ont proposé d'y aller, et donc avec les tronçonneuses on pouvait pratiquement plus en récolter puisque c'était plein de cailloux, c'était mélangé quoi. La population autour n'y est quoi, aucun intérêt pour eux quoi.
Et est-ce que cette phase avec les défoliations comme ça, ça a duré un moment ou c'était un peu c'était la seule occasion que vous avez vu ça?
Ah, moi je l'ai vu qu'une fois, hein, parce que, mais je ne me souviens même plus à quelle époque. Je pense qu'ils l'ont fait au printemps, mais j'en suis pas sûr. Hein. Là, on va dire 69-70 par là. Oui.
Donc ça c'est vraiment d'une manière très brutale le début d'une autre approche à la forêt, de vraiment vouloir. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils voulaient planter, j'imagine.
Ah ben, oui, forcément, c'était, le but c'était de tout arracher, faire tout propre et de planter des sapins.
Parce qu'il y avait un roulement plus rapide.
Les Douglas, tout petits, faisaient 50 cm, sont tous arrivés dans la cour, chez mes parents. Et moi, avec mon tracteur, je les dispatchais dans les bois pour qu'ils les replantent. Bon, ils m'avaient payé, je ne sais plus quoi, pas grand-chose, mais bon, ils me donnaient un petit truc. Parce qu'ils n'étaient pas équipés. Les planteurs, c'était des... Je ne sais plus qu'à l'origine.
Hein. Ce n'étaient pas des gens d'ici?
Non, c'était une grosse boîte qui avait... entrepris ce travaux, puis il y avait donc des planteurs qui étaient étrangers, mais je ne sais plus, moi, est-ce que c'était turc ou je ne sais plus. Donc ils arrivaient avec leur voiture, et puis une pioche, puis un panier, c'est tout. Donc il fallait que leur dispatche les tas de sapins dans les bois pour qu'ils puissent travailler plus et aller plus vite. Quoi.
Avec les voisins, comment vous avez réagi à ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui trouvaient ça vraiment... La perte de ces forêts, ou je veux dire, est-ce qu'il y avait un attachement aux forêts?
C'est un autre monde. Les forestiers, ils ont leur propriété et ils n'ont pas de contact avec les gens des villages autour. C'est deux mondes différents. Et c'est très rare qu'on connaisse le nom. Enfin, on les connaît de nom, mais on ne les a jamais vus. Moi, j'ai entendu parler des parcelles de Leblanc, mais qui c'est Leblanc, je ne sais pas. Il n'est jamais venu, je ne l'ai jamais vu. C'est des gens qui ont des grosses propriétés, donc ils ne s'occupent pas de venir au contact de la population qui habite là. Ça ne les intéresse pas.
Et donc, petit à petit, c'est vraiment devenu très répandu, mais peut-être avec d'autres méthodes, mais n'empêche de couper, de remplacer des feuillus. Parce qu'il y avait des résineux à l'époque ou très peu ?
Oh, très peu.
Naturellement, je veux dire.
Naturellement, il n'y en avait pas. Non, non, ici, il ne pousse pas du tout. Ou des fois, il y avait un endroit, il y avait deux ou trois sapins qui avaient été plantés comme ça, mais rien, quoi. Non, il n'y avait pas de...
Il y a un endroit dans le bois où il y avait une pierre patrimoine, on va dire, donc qui s'appelait la Belle Pierre. Et cette pierre, il y a une légende, et donc c'était une sorte de lieu de pèlerinage. Tout le monde allait voir cette pierre le dimanche après-midi, bref, on montait. Et quand ils ont voulu défricher et installer, c'était sur leur territoire. Et donc, avec la mairie, on a demandé à ce qu'il y ait au moins une protection du site. Alors, ils ont fait quoi ? Ils ont pris la pierre avec un bulle, ils l'ont ramenée sur le bord de la route, et ils ont comblé le trou dans lequel elle était, et miraculeusement, ils ont admis de planter du feuillu, c'était du chêne d'Amérique. Donc, sur 10 mètres carrés, autour de la pierre. Donc, c'est devenu une sorte de caillou sur le bord de la route, ça n'a plus d'intérêt.
D'accord. Moi, j'ai vaguement entendu des chiffres, mais ce n'est pas des chiffres précis, mais bon, qu'avant, il y avait la proportion de feuillus par rapport aux résineux. Maintenant, probablement sur le Morvan, globalement, c'est moitié-moitié, oui. D'accord. Moi, j'ai entendu même que ça commence plus de résineux, mais je ne sais pas.
Moi, je pense qu'on est moins... Bon, quand tu fais un petit tour en hélicoptère, tu vois quand même... Il y a beaucoup moins de résineux que de feuillus.
Ah oui. Toi, tu as fait un tour en hélicoptère restreint, toi.
Oui, mais je n'ai pas fait tout le tour du Morvan, bien sûr. Mais enfin, il y a encore beaucoup de feuillus, malgré tout.
Mais je dirais en bordure, moi. Parce que les gros massifs, eux, ils sont exploités sérieusement, enfin, je veux dire sérieusement, de façon un peu industrielle. Les bordures, ça reste encore des propriétaires des villages. Donc, c'est des petites parcelles qui ne sont pas forcément vendues. Donc, là, on ne voit pas ce qui se passe dans les centres des massifs, quoi.
Ça m'a frappé, il y a des coupes rases qu'on a pu voir aujourd'hui, mais en fait, c'était sur des surfaces très petites. C'était peut-être même pas un quart, un tiers d'hectare, quoi. Oui, c'est parce que c'est tellement morcelé.
C'est ça. Très, très, beaucoup de petits propriétaires. Et donc, c'est un des désavantages. Et c'est aussi pour ça que le Morvan est resté dans cet état un peu... sans exploitation réelle par les industriels. Donc maintenant, ils peuvent récupérer, pour quelles raisons, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il y a la population âgée qui vend et les jeunes se foutent des propriétés forestières et donc ils vendent. Et donc que ça part en bois, ça n'a aucun intérêt pour eux.
Moi, j'imagine que c'est des marcheurs, non ? C'est des gens qui viennent, qui essayent des entreprises, qui passent de maison à maison. On va s'occuper de votre forêt, vous aurez un petit chèque.
Un des derniers qu'on a vu en coupe à blanc, c'est une personne âgée qui a besoin de fonds. Je ne sais pas pour, est-ce que c'est la maison de retraite ou je ne sais pas quoi. Il a tout vendu et s'est coupé à blanc. Et donc, il n'a pas posé la question à ceux qui étaient autour. Non, c'est comme c'est des petits propriétaires, ils utilisent ça comme un capital, quoi. Ils se fichent un peu de l'intérêt écologique ou quoi.
Bon, si on revient il y a quelques années, il y a eu toute une histoire avec le fameux projet d'Axia et la volonté d'installer dans une forêt, sur une forêt, de détruire une forêt pour installer une sorte de méga scierie et production de plaquettes ou de pellets ou je ne sais pas quel truc, quoi, un méga truc. Quoi. Et ça a quand même fait pas mal réagir ici.
Ce sont des gens qui habitaient un petit hameau de Cervon, donc qui s'appelle Marcilly, et qui se sont rendus compte qu'il y avait une sorte de ça commençait à bouger autour d'une parcelle de bois. Donc ils se sont posé des questions, ils ont cherché, ils ont posé des questions aux élites et à tout ça. Et il y avait une étude qui a été faite, mais les gens de Marcilly ont dit mais c'est pas possible, c'est des terrains calcaires, donc il y a des zones humides à proximité, il y a la rivière première catégorie, donc il faut absolument pas que ce soit coupé. Donc ils ont fait un collectif, et ensuite moi je connaissais un des gars du collectif, et j'ai ramené des gens que je connaissais qui pouvaient aussi se regrouper avec ce collectif, et donc on a créé l'association ADRAY. Et qui a donc permis que, avec d'autres associations comme Decavipec, Autun Mouvement Écologie, donc qui nous ont aussi aidés à monter ça en justice. Loire Vivante. Donc on a tous œuvré pour que ça ne se fasse pas. Et on s'est dit, il ne faut absolument pas qu'ils commencent à couper. Donc on a installé une ZAD, une zone à défendre, pour qu'il n'y ait pas le moindre arbre qui soit coupé, parce qu'après c'était trop tard. Et quand on a étudié le dossier précisément, on s'est rendu compte que les chiffres étaient faux. C'était complètement arbitraire, enfin des chiffres comme de la dioxine, 6 grammes par... donc toute la population disparaissait, alors que c'était une installation ICPE, c'était même pas vérifié par la préfecture. Enfin, c'était ahurissant, on était en train de se dire ça tient pas debout, quoi. Et du coup, on a tous tenu le coup pendant 2 ans avec la ZAD, même l'hiver. Il y avait des gens qui venaient dormir on a gagné. Le tribunal administratif a dit que c'était pas du tout valable, et que cette histoire était basée sur des chiffres faux. C'était quelqu'un qui arrivait de Belgique pour pouvoir... faire du profit sur ses transports aussi, parce qu'il ramenait le bois en Belgique pour pouvoir toucher des subventions vertes. Donc on a tenu, et on s'est rendu compte qu'en fait on avait raison, parce que le tribunal administratif nous a donné raison. Ils ont continué jusqu'au Conseil d'État. Ils ont fait appel en disant qu'on ne contiendrait pas, mais comme l'avocat ne se faisait pas payer, on a tenu jusqu'au bout. Ils croyaient qu'on était trop petit, qu'on n'y arriverait pas. Et donc, on a gagné.
Et qu'est-ce que ça donne? Je veux dire, c'est quand même assez rare qu'on a des victoires comme ça. Ce n'est pas tous les jours. Hein. Et ça a dû beaucoup jaser dans la région. Je sais que le député, par exemple, il était complètement pour le projet. Il y avait des élus. Il y avait, je crois, un seul élu sur 40 qui a osé dire qu'il était contre. Donc, ça a dû beaucoup... parler, ça a dû être impressionnant ici.
Au début, tout le monde était pour, parce qu'ils proposaient 120 emplois. Donc, ils avaient une carotte pour que les gens soient d'accord. Oui, 120 emplois sur le bassin, on sait pas, il n'y a pas d'industrie, il n'y a personne. Il y a quand même des chômeurs, c'est quand même bien, super, machin, on fait ça. Et tout le monde, quand on en parlait, oui, non mais vous, les écolos, c'est n'importe quoi. Vous êtes contre les emplois, enfin bref. Et on a été vraiment vilipendés, mis en dessous de tout et tout. Et quand c'est trop drôle, c'est quand on a gagné, tout le monde dit « Ah ben alors là, vous avez bien fait de tenir », etc. quoi. Mais même, moi j'ai rencontré, on a fait du boitage, on distribuait dans les boîtes aux lettres, et donc on rencontrait les gens, on discutait à chaque fois qu'on avait un document papier pour que diffuser nos idées. Et même les femmes de ménage voulaient un emploi dans l'usine, quoi. Donc on avait l'impression que ça allait, c'était... Crésus qui arrivait et qui allait révolutionner le coin. Donc on leur a dit, mais vous ne vous rendez pas compte, ce sera de toute façon une quinzaine d'emplois de techniciens, et puis le reste ce sera comme les usines qui sont autour avec Précis Outils, c'est des gens qui viennent des pays de l'Est et qui sont payés rien. Puis on s'est renseigné avec eux, ils sont venus nous parler de ces gens-là. Ils nous ont dit, mais il y a un turnover fou, on ne peut pas tenir, on n'est payé rien, et puis on ne peut pas rester longtemps, quoi. C'est trop dur. Donc du coup, quand on a tenu, on s'est rendu compte qu'en fait, la population, au fond, elle était assez d'accord. Et dernièrement, on a appris que le patron ou un des patrons du groupe Hertzia, c'est des gens qui sont sur des Belges, il est en prison pour escroquerie et travail dissimulé. Donc on avait bien raison. On a demandé aux élus de prendre acte de ces informations-là. Ils nous ont rien répondu. On a silence radio de ce côté-là.
Oui, j'ai vu l'article dans le Carouège ici, et c'est quand même grave parce qu'il est accusé d'avoir embauché des gens dans des conditions complètement effarantes, quoi. Enfin, vraiment, c'est presque des esclavages, quoi, avec des gens venant de pays de l'Est ou je sais pas où, effectivement.
Ouais, c'est immonde, c'est vraiment la même situation qu'on avait dénoncée, que les gens connaissaient à Précis-Soutil, dans toutes les Syries qui sont autour, qui sont en danger parce qu'effectivement, ces gens-là, ils n'ont pas de moyens de se défendre, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent quasiment pas les lois, il n'y a pas de syndicat, donc c'est des gens qui sont des lumpen prolétariat, quoi. On a vraiment l'impression de ça. Donc quand on dit aux gens que ça va arriver, ils peuvent pas y croire. Et puis après, quand on leur dit, ben voyez ça, voyez ces gens-là comme c'est des escrocs. Ah oui, peut-être. Mais on pouvait que l'imaginer. Les chiffres étaient faux, etc.
Peut-être on peut conclure avec l'histoire de Carouège, parce que c'est quand même, moi ça m'a fait plaisir parce que ça fait très très longtemps que au sein du RAF on rêve de voilà les cafés forêts. Et comme idée pour avoir des discussions régulières dans un cadre convivial, quoi, plein de questions autour de la forêt. Et voilà, on arrive ici, c'est un carrefour, il y a la pancarte dehors là, et c'est marqué Café Forêt, donc c'est génial, quoi. Est-ce que tu peux un peu raconter comment... Parce que ça, c'était après cette victoire, non?
Voilà, alors une fois qu'on a fait la ZAD, le tribunal administratif nous dit OK, puis de toute façon, on se réunissait quand même fréquemment, et c'était chez les uns, chez les autres, on tournait, il n'y avait pas forcément suffisamment de place, et on avait envie de faire autre chose que de faire que des réunions, on voulait manger, traîner un petit peu ensemble, quoi. Et on a cherché un lieu, et une des nanas de la SOS avait une maison à vendre. Et on a dit, bon bah écoute, tu nous la vendrais combien? Elle nous a fait un prix et on était super contents parce que c'était pas cher du tout. Et c'était bien mieux que le dessus d'une boucherie. On avait été visiter plein de lieux, et donc celui-là, on s'est dit, mais c'est exactement là qu'il faut être, quoi. Il y avait tout le matériel pour de la restauration, il y avait des pièces qui étaient faites pour nous, quoi.
C'est sur un carrefour, donc avec vraiment très très pratique pour un peu n'importe qui pour venir, quoi.
C'est très simple. À l'orée du Morvan, avec une petite rivière qui permet de prendre tout de suite conscience de la qualité des lieux, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ici, alors, dans ce Carouège?
Alors, on est une petite quinzaine de bénévoles très actifs, une trentaine de bénévoles actifs. Et puis, on est monté jusqu'à 1300 adhérents, donc des gens qui subventionnent, qui donnent leur part. On a aussi une fondation qui nous aide. Et donc, on a créé un lieu avec une programmation qui marche par 3 mois. Et tous les 3 mois, on a donc un nouveau programme avec des soirées... à thème des films documentaires sur la forêt ou sur les situations que les gens vivent aux quatre coins du monde qui sont oppressés par divers thèmes, quoi. Et donc l'année dernière, on a fait 72 concerts ou activités, donc c'est très très varié. On ouvre aussi à la musique, aux cours, à la danse, aux activités artistiques, enfin voilà.
Et après, il y a aussi vente de produits. Ouais. Parce que apparemment ici, il faut aller loin pour trouver le prochain magasin, et surtout un prochain magasin avec des produits de qualité, un peu locaux, etc.
Voilà. Donc ici, on est à 30 km du premier magasin bio. Et puis, on s'est dit, il nous faut un marché déjà, et puis après, une petite boutique. Donc maintenant, on a une boutique et on avait un marché toutes les semaines, qui était basé plutôt sur le pain et les maraîchages. Et puis ensuite, et ben maintenant, on pense qu'on va faire un gros marché 4 fois par an pour que tous les producteurs viennent ensemble et que donc la population puisse aussi savoir qu'il y a tout un tas de produits qui viennent. Et donc, on a fait un marché autour de la graine. Cet été, on est en train de creuser le projet. Voilà. Et puis, on a fait un marché de Noël qui a super bien marché l'année dernière aussi, parce que les gens sont prêts à venir acheter des produits d'artisans locaux, quoi.
Ben, lié avec ce qu'on a vu ailleurs, qu'on n'a pas mentionné, mais le chat sauvage, qui est ce groupement forestier, c'est aussi un lieu qui permet à vraiment parler de tous ces questionnements, quoi. Mais super, merci.
Et la femme de... La Frédéric, qui est le gérant du chat sauvage, sa femme Sylvie, elle vient aussi à la boutique pour nous aider. Donc on s'intervertit souvent les rôles, quoi.
Mais merci. C'était Le chat sauvage et le carouège, la 23e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine, en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de Radio Zinzine, www.radiozinzine.org, ou alors sur le site du RAF, www.alternativeforestiere.org, où vous trouverez plein d'informations sur les activités du réseau.